Tech & Co Business, le décryptage IA.
Souveraineté, productivité, service, l'IA en ordre de marche pour séduire les entreprises. On va parler de tout ça dans ce débrief avec nos deux débriefeurs de choc. Vincent Champin, bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, président de l'Observatoire du long terme et patron du digital chez Framatome, membre du COMEX chez Framatome. Observatoire du long terme, je vous conseille en replay, d'ailleurs, on s'est vu il y a quelques jours avec Gilles Babinet pour un rapport sur la productivité très intéressant que je vous conseille encore. Allez voir le replay, on en dit quelques mots, mais voilà, c'est mieux quand même quand on a le rapport. En tout cas, merci d'être venu pour la dernière fois pour ce sujet-là. Et puis Alain Goudet. Bonjour Alain.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. Et pareil, alors là, il faut aller sur vos comptes aussi à tous les deux sur X. Alain, chaque fois, il y a l'actualité de tout ce qui sort sur X et c'est vraiment passionnant. Tiens, on va dire un mot sur Arthur Mensch qui était convoqué par une commission parlementaire. Alors moi, la première chose, ça va vous frapper. Regardez-nous en télé. Ils sont 6, je crois. Alors que je trouve que à l'heure actuelle, évidemment, en dehors de tous les éléments géopolitiques, mais à l'heure actuelle, avoir un Arthur Mensch sous la main pendant une heure et demie pour lui poser tout un tas de questions, mais on aurait dû avoir une flopée de députés. Non, ils sont à peine 6, et encore, il doit y en avoir 2 qui vont juste le relever de tout ça. On va écouter ce qu'il nous dit d'abord sur la réglementation, et puis ensuite, on va rebondir dessus.
Sur la réglementation comme défense et comme manière de contrer les Américains, je pense que souvent l'intention est bonne, c'est-à-dire de se dire on va faire en sorte que ça favorise nos start-up européennes. Je pense que si on regarde dans tout l'historique de ce qu'on a pu faire, ça n'a jamais été le cas. Et une raison très simple, c'est que la réglementation, fondamentalement, ça vous met un overhead que pour surmonter, il faut être suffisamment gros. Et donc si vous n'avez pas des entreprises suffisamment grosses avec une charge réglementaire aussi grosse, vous vous retrouvez à importer des acteurs américains. Mais réglementer pour défendre, en général, ça ne marche pas.
Réglementer pour défendre, ça marche pas. Bon, c'est ce qu'on dit un peu souvent ici, mais le fait que ce soit Arthur Mensch qui le dise, première réaction, Vincent.
Je pense qu'il a lu le grand décrochage, parce que ce qu'il dit sur l'innovation...
C'est ça, le rapport sur la productivité.
On rappelait que les normes, à l'époque du GSM, ça a rendu l'Europe plus forte, parce que c'était des normes performantes. Et alors que maintenant, on a l'impression que c'est plutôt des normes qui sont là pour empêcher. Et donc, comme le dit Arthur, c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Deuxième point. Alors, effectivement, il n'y a pas grand monde dans la salle. Il y a énormément de gens qui l'ont lu.
Oui.
Donc, je pense que ça a un énorme impact. Je pense que ça fait plaisir aussi d'entendre un patron qui a un tech guy. C'est pas un general manager qui lisait des éléments de langage. Il a fait du code.
Et puis, il sait ce dont il parle. On va en reparler dans un instant sur l'emploi. Il rentre dedans. Ouais. Et même sur l'énergie. Il a été, moi, je vous conseille de l'écouter vraiment sur les chiffres. Il dit, voilà, une carte mémoire, c'est...
Un kilowatt par salarié.
Du coup, ça vous coûte 10 000. Il a tout un ensemble de chiffres. Et ça nous permet un peu de voir comment on peut calculer tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant.
Ouais. Donc ça, je pense que c'était très bien, cette partie-là, formidable. Et bon, finalement, qu'il y ait peu de monde dans la salle, beaucoup de gens ont entendu. Ça montre probablement que cet exercice de l'audition, il devrait être réinventé. C'est-à-dire que je pense que le Parlement devrait ouvrir aux questions des internautes. Et finalement, qu'il n'y ait que 5 personnes dedans, s'il y a 100 000 personnes qui regardent, c'est pas plus mal. La petite réserve, je pense que mais c'est la même chose aussi, peut-être avec Dario Amodei, Dario Amodei sur Anthropique, quand on arrive dans les domaines qui sont moins son domaine, c'est-à-dire la macroéconomie de l'emploi. Enfin, Arthur, c'est quelqu'un qui a fait de la recherche, ensuite il a bossé dans une boîte en hypercroissance. La macroéconomie de l'emploi, elle ne se joue pas là, elle se joue en province, elle se joue dans les petits... Donc, je pense que ce qu'il dit dans ce domaine-là, ça représente bien ce qu'il voit lui, ce n'est pas forcément extrapolable. Et dans ce qu'il dit lui, il y a des choses intéressantes. Il dit, par exemple, que la productivité est hyper forte sur le codage individuel.
Oui.
Et il dit, en revanche, qu'on est sur le codage collectif, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas encore complètement inventé les méthodes qui permettent ça. Et ça renvoie aussi à une chose qu'on racontait dans le grand décrochage, c'est-à-dire que les grandes ruptures technologiques, ils nécessitent des forts co-investissements. C'est-à-dire que c'est pas seulement la technologie, c'est revers ces processus, refaire un certain nombre d'outils, réinventer une façon de travailler. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a qu'une partie de la productivité.
Il dit, hein, il s'inquiète d'une Europe cantonnée à la fourniture d'énergie dans la course à l'IA. On l'entend souvent dire ça. Allez-y, parce que enfin, je vous conseille encore une fois, puis il dit des chiffres qui sont hyper. Enfin, je trouve qu'il faudrait les noter pour avoir toujours un peu une grille d'évaluation.
Non, là, il parle de quelque chose qu'il connaît, hein, donc il raconte son expérience. Il explique que c'est compliqué de faire une entreprise pan-européenne parce que pour les stock options, toute la réglementation, la transparence des données, il y a une réglementation par pays. Donc, ça, je pense que ça mérite d'être écouté.
Il faut même ouvrir un compte en banque par pays.
Et au-delà d'écouter, il faut en tirer les leçons parce que le rapport Draghi évoquait un peu ce sujet-là, mais Draghi, c'est plutôt des banquiers, des gens qui sont sur un type d'économie différente, l'économie de l'hypercroissance. Elle s'était pas encore exprimée là-dessus, et c'est bien qu'Arthur Mensch l'ait fait.
Alain.
Alors oui, c'est clairement une audition à aller écouter. Hein. En fait, moi, je l'ai réécouté plusieurs fois. J'en ai fait un article hein, sur mon blog hein, parce que je trouve que notamment quand on est membre de Comex ou décideur, c'est justement vraiment à analyser dans le détail. Il y a plein de choses hyper intéressantes.
Et puis, d'accord. Hein, moi, je trouve que ces chiffres-là, parce qu'à chaque fois on nous dit on va créer un data center de 6 gigawatts et tout ça. Là, il explique clairement. Voilà, un demi gigawatt, ça fait c'est autant de cartes de calcul.
Et puis il donne des métriques. Hein, enfin, sur la base de l'expérience à Mistral, hein. Il a aujourd'hui 10% de sa masse salariale qui passe en computier. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il sait de quoi il parle, il l'a mesuré, c'est annoncé très clair. Si on commence à extrapoler les uns et les autres dans nos organisations, ça a quand même une signification assez nette sur le PNL, sur la structure de bilan. Et il explique aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux, en fait, justement, de partage de la valeur, hein, puisqu'il y a tout un passage sur finalement tout ça devient très capitaliste. Et il amène très nettement le débat de ok, mais du coup, une fois qu'on en est là, comment on gère cette répartition.
D'ailleurs,
de
il le dit très clairement hein, qu'il a des investisseurs américains. Il dit parce qu'il y a un moment, quand on est allé chercher, c'est les seuls qui ont répondu. Je vous propose d'écouter un autre extrait. Justement, on va reparler de productivité, de chômage. Alors, effectivement, c'est peut-être vu avec le regard et le périmètre. Il y a le pyramide d'Arthur Mensch, mais quand même, il dit quand même pas mal de choses. On l'écoute.
Vous êtes dans une situation. Vous avez quand même certains métiers qui disparaissent presque. Et donc, les gens s'adaptent. Ils s'adaptent assez vite. Hein. Je pense que ça devrait passer. C'est pas exclu qu'il y ait quand même une augmentation dans certains domaines du chômage et, d'une certaine manière, un déplacement de la valeur du travail vers le capital. Et le capital qui est, pour le moment, largement pas du capital européen. Et donc vous avez cette situation qui je pense est assez explosive hein, entre d'une part vous avez peut-être des destructions d'emplois ou en tout cas des modifications très très rapides de la structure de l'emploi en Europe, vous avez une situation où tout le monde veut de l'électricité et il n'y a pas assez d'électricité, donc vous avez des conflits d'usage, ça veut dire inflation, donc vous avez de l'inflation potentiellement due à l'intelligence artificielle. Et puis troisième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez un déficit commercial qui explose, c'est-à-dire que sur le plan des services, il est multiplié par 5 dans les 5 prochaines années. Une situation comme ça, c'est quand même relativement... c'est révolutionnaire, quoi. Donc, il faut le prendre en compte, je pense. Il faut en parler plus. Il faut avoir un point de vue plus long terme sur ce que ça veut dire pour l'économie, ce que ça veut dire pour la société, ce que ça veut dire pour les équilibres géopolitiques. Et si on ne le fait pas suffisamment rapidement pour revenir à votre question... on va se retrouver dans une situation où on n'aura aucun choix. Et ça, c'est une situation qu'on ne voudrait pas voir advenir.
Caractère d'urgence, hein, quand même, Vincent.
Bon, alors, après, ce qu'il décrit... hein, alors... l'IA va faire des changements, mais souvenons-nous de l'Internet et de l'ubérisation. Hein. Mm-hmm. Le bilan de l'ubérisation, par exemple, dans le domaine de l'Uber, c'est que finalement, il n'y a pas eu de chômage de masse des taxis. En revanche, ils ont perdu la valeur de leur plaque a baissé, donc en gros, leur retraite a baissé.
Ce qu'il y a aussi qui change, c'est que ça va très vite.
Uber, ça s'est fait assez vite. Hein,
C'est vrai.
Et il y a eu 40 000 emplois en plus, alors qu'il y a des gens qui, effectivement, passaient du chômage
avec un service rendu.
Avec les services rendus. Là, l'économie française, elle détruit, elle recrée 15% de ses emplois chaque année. Quand on fait le bilan de tout Internet, donc 25 ans après, c'est 20 points de PIB. 20 points de PIB, c'est beaucoup. Mm-hmm. On a fait 20 points en 25 ans, c'est-à-dire un effet de 0,8% par an. Donc 0,8% rapporté à 15%, c'est significatif, mais c'est pas quelque chose qui crée un amarguédon. En revanche, c'est vrai que dans certains domaines, c'est plus important. Je pense qu'il fallait pas acheter une licence de taxi en 2004. Donc effectivement, ceux qui sont dans la traduction, certains métiers de code, valant le code plus simple, de faire un site web basique, ça c'est compliqué. En revanche, ce qu'il dit, c'est que le métier de codeur se sophistique, devient plus un métier de manager et moins un métier d'exécutant. Et puis, ce qu'il dit aussi, et il a pas tort, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc qu'il y ait une réflexion là-dessus, oui. The Economist fait sa dernière une sur ce sujet. Et ce qu'ils disent et qu'ils rappellent, ce que disent les spécialistes du domaine, c'est que effectivement, il y a eu les vagues technologiques ont tous eu des effets de ce type-là. Dans tous les cas, On a pensé que ça allait beaucoup plus vite que ça n'allait en réalité. C'est le paradoxe Zamara. En revanche, à long terme, ça changeait beaucoup plus de choses qu'on n'imaginait pas. Ouais. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui permette de penser que l'IA serait différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accélération de la productivité. On voit que les gens investissent, mais les productivités liées à l'IA, quand on demande aux gens, il y a eu ce sondage sur plusieurs milliers de managers, c'est la seule étude sérieuse qu'on ait, on ne trouve pas de choses positives sur le passé. Et sur le futur, ils disent 1 ou 2% par an. Voilà.
Alain.
Il y a un passage qui est assez intéressant aussi dans son propos, c'est le moment où il explique les gains de performance quand on est tout seul, hein, et effectivement sur le métier de codeur, c'est fois 10 à fois 20, et il explique que dès que la taille des équipes augmente, en fait, ce gain de performance s'effondre pour des problématiques de communication, d'organisation, etc. Et je rejoins Vincent, c'est-à-dire que je crois qu'on est dans une période où il y a énormément d'incertitudes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il va y avoir une reconfiguration massive du marché de l'emploi. Je veux dire, les études, elles existent déjà depuis quelques temps. Le Forum mondial de l'économie rappelle quand même qu'il y a plus d'un milliard de personnes concernées par une reconfiguration de leur emploi, un emploi qui perdure mais qui se transforme, pour de l'ordre de 39% des compétences cœur de métier de ces emplois-là, et un horizon de 2 ans. Donc on voit bien que c'est massif, rapide, et ça nécessite, et c'est aussi un point sur lequel il insiste, finalement un accompagnement extrêmement fort de la part des entreprises. Et aujourd'hui, on voit aussi, malgré tout, que c'est un des éléments de complexité.
Un accompagnement au quotidien. Hein. On a eu un sondage tout à l'heure avec Odoxa. C'est pas tout de faire une formation, puis après, allez, je vous lâche, et puis rendez-vous dans 6 mois, la prochaine formation. Non. C'est un accompagnement presque par semaine, il faut faire tout ça.
En fait, ça nécessite de reconfigurer l'entreprise et les processus de l'entreprise autour de ces technologies d'IA, et non pas juste de faire du déploiement de licence ou du déploiement de formation. Et donc oui, comme tu le dis très bien, c'est un accompagnement en proximité, au quotidien, pour identifier les zones de friction finalement dans l'activité actuelle de l'entreprise et voir à quels endroits ce type de technologie peut tout à fait faire sens.
En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, les entreprises, leur boulot, c'est d'être le plus efficace avec une technologie donnée. Donc effectivement, elles, leur mission, ça va être d'intégrer ça. Et puis ensuite, il y a la question qui est celle du modèle social. Il y a 3 modèles sociaux dans le monde. Il y a le modèle social, disons, libertaire, capitaliste, en gros, malheur au perdant. C'est-à-dire celui qui bouge, il se débrouille. Et du coup, il apprend aussi, il intègre dans son formation, fonctionnement, qu'il doit se débrouiller. Donc, il va trouver vite, il va faire des compromis qu'on ne fera pas forcément dans notre modèle. Il y a le modèle nordique, où là, la collectivité met des moyens énormes pour accompagner les gens, en gros, pour passer des secteurs en décroissance vers des secteurs en croissance. Mm-hmm. Et donc ça, c'était le fameux modèle nordique, alors qui a eu un peu de faiblesse sur les dernières années, mais qui investit dans les dépenses actives de l'emploi. Et puis, on a le modèle français où on met le paquet sur les dépenses passives. Et là, le problème, c'est quand il y a une grosse vague qui arrive, on n'aide pas forcément les gens à sortir. Donc là où Arthur Menchin a raison, moi, je voudrais attirer l'attention là-dessus. Il faut quand même avoir un discours qui ne soit pas uniquement négatif, en prévoyant un armageddon. Notre plus gros risque aujourd'hui, en termes de compétitivité, de pouvoir d'achat, c'est d'être plus tardif que les autres pays à intégrer cette productivité. Oui. Si on ne le fait pas, on n'aura pas les moyens pour former, on n'aura pas les moyens pour soutenir le pouvoir d'achat. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a des remises en cause de notre modèle social, la façon dont on accompagne, même le management. On l'évoquait avec Gilles, des modèles de management qui considèrent que la personne qui était le meilleur de sa promotion pour faire des intégrales triples à 20 ans doit être le meilleur à 60 ans et que ça, c'est pas changeable. Ça, c'est pas un modèle qui est adapté à un monde qui change. Donc, il y a des remises en cause à faire, mais je pense qu'il faut le faire quand même en se disant qu'il y a du bénéfice à aller chercher et que si on négativise trop ces éléments-là, on risque d'avoir le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les bénéfices de la productivité et on n'aura pas les moyens d'accompagner correctement.
Alain. Puis pour compléter la réponse de Vincent, il y a quand même aussi un sujet, c'est qu'à partir du moment où finalement ton coût, par exemple, de création d'une appli tend vers zéro parce que tu as de l'IA qui vient en renfort pour écrire les lignes de code, en fait, il va y avoir une augmentation de la demande de création d'applications pour des choses sur lesquelles on n'explorait pas du tout cet aspect-là parce que c'était trop cher. Donc en fait, à court terme, on risque même d'avoir un effet contre-intuitif qui s'appelle le paradoxe de Jevons, où en fait la demande pour certains types de métiers va exploser. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une zone de forte incertitude, et par contre, il faut effectivement avancer assez rapidement.
Et pas avoir toujours ces discours négatifs. Rapidement, parce que je me suis rendu compte, le temps a passé, Anthropic OpenAI qui lance leur joint venture respectif pour conquérir les entreprises, ça vient concurrencer nos Capgemini et tout ça?
En fait, il y a plusieurs sujets derrière. Alors,
quand je dis leur joint venture, c'est pas ensemble, c'est
non.
Chacun...
et puis c'est bien séparé, investisseurs d'un côté et de l'autre, il n'y a pas d'overlap du tout. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le modèle le modèle finalement n'est plus vraiment le produit en tant que tel. Hein. L'idée, ça va être de s'insérer au cœur des organisations, des entreprises, pour proposer le tout en mode complètement intégré. Je pense que le sujet, c'est aussi d'avoir finalement des canaux de distribution très puissants, hein, parce qu'une fois que tu as du BlackRock ou ce type de partenaire dans ton board, bah, finalement, ça t'assure un canal de distribution auprès de plusieurs centaines d'entreprises.
Vers leur,
voilà.
Leur,
et puis, c'est un très bon moyen aussi, malgré tout. C'est un peu le modèle de Palantir, hein, de fournir à la fois le service, le modèle, et quelque part de capter 80% de la valeur au lieu de simplement 20% de la valeur.
Donc, peut-être deux choses. Un, c'est effectivement le paradoxe de la productivité. C'est-à-dire que l'IA seule ne suffit pas. Donc, il faut des co-investissements, de la formation, de la transformation. Donc là, ils ont compris que s'ils ne faisaient pas cette transformation, la demande ne sera pas suffisante sur les modèles, ils vont avoir un problème.
Être un outil ne suffit pas.
Donc ça, c'est la version positive, on va vers plus de productivité. Et puis la version négative, c'est de dire que le token est en train de se commoditiser. Donc, ils essaient d'aller, de suivre la marge.
Est-ce que
McKinsey, Capgemini, Accenture les laisseront faire? Et est-ce qu'ils seront capables d'avoir une offre qui soit meilleure en termes de rapport coût-qualité-prix?
Et c'est un vrai sujet dans un monde où les modèles deviennent, au fur et à mesure, interchangeables. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu prends un Opus 4.7 ou un Gemini 3.1 Pro ou un GPT 5.5, sincèrement, ils font à peu près la même chose.
Oui, et derrière, il y a des abonnements, enfin, et on ne peut pas s'abonner à tout. Très rapidement, de plus en plus de méfiance autour de l'IA. Eric Schmidt, hué à l'Université d'Arizona, et puis la maison de Sam Altman visée par un cocktail Molotov à San Francisco. C'est des petits signaux faibles, mais quand même.
Alors, c'est un nom dans l'histoire économique, c'est les ludites, hein, c'est les personnes qui veulent casser la machine. Alors, bon, il faut prendre ça au sérieux, parce que derrière, il y a des vrais soucis. Enfin, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que notre capacité à accompagner, puis c'est des espèces de discours, on a l'impression que bonheur au gagnant et malheur au perdant, je pense que ça peut être angoissant pour un certain nombre de personnes. Bon, j'espère, et il faut qu'on trouve quand même une issue un peu plus positive, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses intéressantes à faire avec l'IA. Et
il faudrait pas que des gens par je sais pas si c'est idéologie le terme,
on n'a pas vu ça sur internet.
Se disent allez, moi je veux pas l'utiliser parce que du coup ça va encore plus accroître le fossé.
Oui. Et on en voit. Hein. J'ai vu qu'il y a un bouquin qui est sorti sur une personne qui demandait de boycotter l'IA dans un certain nombre de domaines dits créatifs. Je suis pas sûr que ce soit la solution.
Non.
Alors, ce sont des signaux faibles. Alors, faut regarder vraiment dans le détail, hein, notamment concernant Eric Schmidt. Il semblerait que ça ne soit pas que le sujet de l'IA. Hein. Il y avait des histoires un peu différentes par rapport à ça. Maintenant, on voit bien quand même qu'il y a une ligne de fracture. Là, il y a un baromètre, hein, qui est sorti concernant la France, hein, il y a quelques jours, qui explique que 8% seulement des Français veulent accélérer sur le sujet, là où l'écrasante majorité veut plutôt prendre un peu de hauteur, ralentir, voire carrément s'arrêter pour justement essayer de résoudre toutes les problématiques autour de l'IA dans le domaine de la défense, la cybercriminalité, enfin toutes les craintes qu'il y a. Voilà, c'est une technologie qui est ni bonne ni mauvaise en soi, c'est vraiment l'usage qu'on va en faire qui va définir un petit peu tout ça, et je crois qu'il est extrêmement important de développer justement la compréhension de ce qu'est cette technologie, l'exploration de ce qu'il y a très positif dans cette technologie, et effectivement de réussir à en limiter les effets délétères.
Eh bien, merci à tous les deux. On peut retrouver, hein, certains éléments justement dans le rapport sur le grand décrochage de l'Observatoire du long terme, présidé par Vincent Champin, patron digital aussi chez Framatome, membre de Comex chez Framatome. Merci d'avoir été avec nous. Et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. C'est toujours un plaisir de vous avoir autour de ces sujets. On est resté un peu longtemps sur Arthur Mensch, mais je trouve que c'était un moment important aussi de nos chapitres IA, et d'avoir cette écoute qu'il a eu des parlementaires, et cette écoute qu'il a eu aussi auprès de nous tous, hein, et je crois que vous êtes très nombreux à l'avoir écouté. Merci de nous avoir suivis. Tech & Co Business est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.